6h54, Europe 1 s'ouvre sur le monde. C'est l'heure de la revue de presse internationale, direction très lointaine. Pour commencer, à Tokyo, avec vous, Bernard Delattre. Bonjour Bernard.
Bonjour François.
Alors, qu'est-ce qui fait la une chez vous ce matin au Japon ?
Le grand plan pour l'égalité homme-femme que le gouvernement vient d'approuver, et ce qui n'y figure pas. Les Japonaises qui se marient ne seront toujours pas autorisées à utiliser leur nom de jeune fille dans la vie courante. Car ici, les couples mariés sont obligés de porter le même nom. Et dans ce Japon encore très patriarcal, 9 fois sur 10, le mari refuse de renoncer au sien. Donc ce sont les femmes qui doivent faire l'impasse sur leur nom de jeune fille, quitte à ce que cela nuise à leur carrière. Mais enfin, s'énerve le quotidien de gauche Mainichi, cette réforme est dans les cartons depuis 24 ans et la majorité des sondés y sont favorables. L'autre grand titre progressiste, Asahi, ajoute qu'avec une législation aussi rétrograde et aussi phallocrate, le Japon ne doit pas s'étonner d'être si mal classé dans les palmarès sur l'égalité homme-femme dans le monde. Quelle déception ! Comment est-ce possible ? Interroge le journal centriste Tokyo Shimbun. Réponse de l'agence de presse Kyodo, la fronde de l'aile ultra-conservatrice de la majorité a contraint le gouvernement à faire marche arrière. Ce dont la presse de droite se réjouit, cela dit, elle qui a toujours bataillé contre cette réforme.
Alors on se demande, mais avec quel argument, Bernard, comment est-ce qu'on peut justifier vraiment une mesure aussi sexiste ?
Elle cadre parfaitement avec notre conception traditionnaliste de la famille, écrit le quotidien nationaliste Sankei. Pour qui, deux noms d'époux différents, ça réduirait le sentiment d'unité au sein des foyers, donc affaiblirait l'institution familiale. Et puis cet autre argument, qu'on a entendu notamment dans un talk show télé sur la chaîne Fuji News, c'est une ex-ministre, une femme donc, qui l'a martelé. Un tel changement, tenez-vous bien, déstabiliserait psychologiquement les enfants en les obligeant à trancher un dilemme cornélien, porter le nom de leur papa ou de leur maman.
Ah oui, quelle question. Merci Bernard Delattre depuis Tokyo. Je vous avais promis un grand voyage. Eh bien, on va partir au Brésil pour retrouver notre correspondante Marie Nodacher. Bonjour.
Bonjour François. De toutes les phrases du président Bolsonaro niant l'ampleur de la pandémie en 2020, le coronavirus est surestimé, disait-il en mars, ou encore le virus provoque une certaine hystérie. La Folha de São Paulo met côte à côte ces phrases et l'évolution vertigineuse des contaminations dans un graphique en pleine page. Lui qui estimait en mars que son historique d'athlète le protégerait contre cette grippette avant d'être contaminé en juillet, qualifiait en novembre le Brésil de pays de PD, l'isolement social étant pour les faibles. Un des effets les plus évidents de sa rhétorique est d'inciter les Brésiliens à ne pas se vacciner, estime un chroniqueur du quotidien. 22% de la population, soit 27 millions de Brésiliens, ne seront pas immunisés. Ceux qui refusent de voir les menaces de ces mots pourraient au moins voir leurs effets dévastateurs, conclut le journaliste.
Alors Marie, après un tel florilège, les Brésiliens, on l'imagine, espèrent peut-être la fin politique de Bolsonaro.
Alors depuis le début de son mandat, il y a 2 ans, plus de 50 demandes d'impeachment ont été déposées, la plupart à cause de sa mauvaise gestion de la pandémie, mais aucune n'a abouti. Une plainte déposée au tribunal pénal de La Haye pour son incitation au génocide des indigènes sera finalement analysée. Un premier signal positif, estime le journaliste Jamil Chadj du portail Wall, mais 37% des Brésiliens continuent à soutenir le président selon l'institut Datafolha et 50% parmi les chefs d'entreprise. Et puis la proportion des anti Bolsonaro se maintient, elle aussi, autour de 32%, alors que le chômage explose. Il y a aujourd'hui plus de Brésiliens au chômage ou sans emploi stable que de Brésiliens qui travaillent dans le deuxième pays le plus touché au monde, avec plus de 220 000 morts.
C'était la revue de presse internationale. Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1 et Marie Nodacher au Brésil.